13h-14h, En quête d'esprit, CNews, Europe 1, Émeric Pourbet.
Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 et sur CNews pour En quête d'esprit, l'actualité avec un regard spirituel. L'actualité, ce sont les sénateurs qui doivent se prononcer en fin de semaine pour ou contre l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Le Vatican est intervenu dans le débat intérieur français de manière assez rare sous le pontificat du pape François pour dire son opposition catégorique à ce projet. Pourquoi l'Église s'attache-t-elle à protéger autant la vie naissante en la considérant comme sacrée contre vents et marées? Car les faits sont là, depuis près de 50 ans, l'avortement est devenu une réalité dans notre pays. Une grossesse sur quatre s'achève par un avortement aujourd'hui. L'IVG en France est donc désormais une sorte de dogme républicain. Sauf que derrière ce tabou, eh bien, se cache souvent un drame, une blessure, des histoires de femmes et d'hommes, de vie et de mort. Drame qui ne saurait échapper à la sollicitude des chrétiens qui se dévouent pour accompagner, soigner peut-être ce deuil caché. Cette blessure qui est aussi une blessure de l'âme. Véronique Jacquier, bonjour.
Bonjour Émeric, bonjour à tous. Alors, pour évoquer, évidemment, l'avortement et ses blessures, Cécilia Ranson, qui est journaliste, qui est auteur d'un documentaire qui traite de l'avortement, Sylvie Le Petit, auteur d'un ouvrage, Le Deuil défendu, et puis Lucie Pacherie, Fondation Jérôme Lejeune, juriste à la Fondation.
Voilà, et on retrouve donc nos invités dans un instant. Juste après les infos, ce sera avec Somaya Labidi, et puis je le précise, cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Bonjour Somaya, les infos religieuses de la semaine avec vous et on commence avec Missak Manouchian, le résistant qui est entré au Panthéon et dont on dévoile un aspect méconnu de sa personnalité.
Bonjour Émeric, bonjour à tous. Absolument, on apprend grâce aux mémoires d'un abbé allemand qu'avant son exécution par les nazis, le résistant a demandé l'absolution, comme nous le raconte Stéphane Chmielewski.
Lorsqu'ils arrivaient au Mont Valérien, parce que Stock les accompagnait dans les camions, Stock et s'adressait à chacun des condamnés pour savoir s'il avait un besoin quelconque. Certains rejetaient ses services, d'autres l'acceptaient. Et Manoukian, à propos de Manoukian, dans ses carnets de guerre, Stock explique qu'il s'est confessé et a communié, ce qui l'a placé dans la catégorie des personnes qui étaient convaincues de leur foi.
Dans le reste de l'actualité, la liberté religieuse des chrétiens menacée en Occident, c'est ce qu'affirme une ONG américaine dans son dernier rapport, les explications d'Alice Sommerer.
L'intolérance envers les chrétiens d'Occident est plus qu'en hausse ces dernières années. L'organisation non gouvernementale Family Research Council a publié un rapport dans lequel elle dénonce les multiples atteintes à la liberté de penser.
Il est choquant de voir des pays occidentaux, ceux-là même que nous considérons comme des sociétés libres et ouvertes, prendre des mesures autoritaires contre les chrétiens, essayant simplement de vivre leur foi.
Problème majeur abordé dans ce rapport, celui de la persécution idéologique. Les chrétiens sont traqués parce qu'ils s'appliquent la morale issue de la Bible. Les questions de genre ou d'orientation sexuelle sont elles aussi particulièrement visées.
Plusieurs enseignants de l'école publique ont été licenciés pour avoir exprimé leurs préoccupations concernant la manière dont les écoles promeuvent des visions séculaires de la sexualité.
Au cours de l'année 2023, plus de 168 incidents de persécution ou de discrimination ont été constatés dans 16 pays.
À la une également cette question, les piscines de Louvre vont-elles rouvrir en 2024? C'est le souhait des responsables du sanctuaire. Depuis la crise sanitaire, les pèlerins ne prennent plus le bain rituel de purification, source de nombreux miracles depuis les apparitions de la Vierge Marie en 1858. Direction le Mozambique à présent, où le Père Salvator Maria a réussi à sauver le Saint-Sacrement de sa chapelle d'une attaque terroriste le 12 février dernier. Le corps du Christ était menacé par un incendie déclenché par des islamistes, mais le presbytère, l'église et les locaux de la paroisse ont eux été réduits en cendres. Et puis on termine ce journal avec le traditionnel défilé du Nouvel An chinois qui s'est déroulé dimanche dernier dans les rues de Paris. En France, la communauté asiatique a fait le déplacement pour cet événement festif, culturel, mais aussi spirituel, comme nous la raconte Éloi Rochebrune.
Dans les rues de Paris, le dragon chinois s'est réveillé sous les yeux ébahis des spectateurs. Cette nouvelle année lunaire sera placée sous le signe astrologique de cette créature légendaire, un signe de bon augure.
Les Chinois apprécient beaucoup le dragon pour en fait sa représentation qui représente puissance, prospérité, richesse.
La diaspora chinoise est venue en nombre, une manière d'honorer les traditions de leur pays d'origine.
C'est une fête qui appartient à toute l'Asie. Je me sens concerné.
C'est vraiment une occasion ouais, de se retrouver en famille, de fêter. Puis tu as aussi la question de religion, où on fait vraiment les offrandes et tout pour les dieux. Donc c'est vraiment ouais, un vrai moment culturel et de revoir un peu ouais, la famille. De revenir un peu aux sources, quoi.
Le défilé a aussi attiré des curieux et la pluie n'a pas empêché les dizaines de danseurs d'embellir la grisaille ambiante.
Les costumes, le défilé qui est quand même le plus important, celui du Paris 13e. Et donc voilà, j'avais envie d'être là aujourd'hui pour une grande première.
Tous les ans, le Nouvel An chinois est fêté bien au-delà des frontières de l'Empire du Milieu, une tradition datant de la Chine antique et qui aujourd'hui est la plus importante de leur calendrier.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité, Émeric.
Merci Somaya. Nous parlons aujourd'hui dans Enquête d'Esprit d'un sujet sensible, douloureux, l'avortement et ce qu'en dit l'Église. Pourquoi l'Église considère-t-elle que la vie est sacrée et est-ce que l'avortement, justement, ne serait pas une blessure aussi de l'âme? On en parle avec nos invités. Cécilia Ranson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à la chaîne KTO. Vous êtes aussi auteur de documentaires portant sur des sujets religieux ou sociétaux. Le dernier en date s'appelle « Le deuil caché », justement. Il parle du sujet sensible de l'avortement. Vous nous parlerez de votre démarche. Avec nous également, Lucie Pachery, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste et chargée de plaidoyer à la Fondation Jérôme Lejeune, du nom d'un grand scientifique reconnu internationalement, qui a sacrifié sa brillante carrière au moment des débats sur la loi Veil et dont le dossier de béatification est en cours à Rome. Vous nous direz ce qu'il a à nous dire aujourd'hui sur le sujet. Et puis Sylvie Lepetit est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de lettres émérite. Vous avez enseigné dans le public, dans le Val-de-Marne. Et vous êtes surtout l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le deuil défendu, regardez en face la blessure de l'avortement ». C'est aux éditions Saint-Léger où vous racontez votre histoire. Vous avez subi un avortement à 17 ans, dont les séquelles feront surface beaucoup plus tard. Et c'est la foi, notamment, qui vous aidera à surmonter cette épreuve. Vous nous direz comment. Et puis Véronique, je rappelle que vous êtes journaliste et vous nous parlerez des évolutions législatives, justement, depuis le vote de la loi Veil en 1975. Alors justement, dans cette émission, eh bien, nous allons laisser de côté pour l'instant le débat politique et partisan, dont le scénario d'ailleurs est plus ou moins écrit à l'avance au vu du rapport de force très inégal, pour nous intéresser au fond du sujet, à sa dimension humaine et spirituelle, ainsi qu'aux faits, puisque évidemment ce sont eux qui sont les plus importants. Au préalable, je voudrais rappeler aussi les mots de Simone Veil à l'Assemblée nationale lors du vote de la loi, c'était en novembre 1974, voici ce qu'elle disait, « C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame ». Ces mots sont en écho aussi avec le documentaire que vous avez réalisé, Cécilia Ranson, qui a été diffusé donc sur KTO en octobre dernier. Ça s'appelle « Le deuil caché ». Écoutez cette bande-annonce qui montre comment cinq femmes témoignent de leur avortement.
J'étais très étonnée de tomber enceinte. Puis surtout, j'étais sous contraception.
Et elle m'a dit, est-ce que tu as eu tes règles? J'ai dit non. Elle m'a dit, est-ce que tu es enceinte? J'ai dit, je pense que oui.
On me posait la question, bah, vous êtes croyante, pourquoi vous ne voulez pas avorter? Je lui ai dit, non, je ne suis pas croyante, ça n'a rien à voir. Finalement, dès qu'on ne voulait pas avorter, on était mise dans une case.
Fin 2014, j'ai subi une agression, un viol. Et donc, suite à cette agression, je suis tombée enceinte.
Apparemment, à 17 ans, j'avais toutes les raisons de le faire. Et je pensais que l'avortement réglerait ce problème et qu'en gros, je redeviendrais comme avant. Sauf que je ne suis jamais redevenue comme avant, en fait.
Si on en parle trop, on met en danger ce droit qui redonne en fait à la femme un pouvoir en fait sur son corps.
C'est un sujet tabou, on ne peut pas dire, on doit assumer. Voilà, c'est un acte qu'on doit assumer, quand bien même on n'a pas posé un choix libre, mais il faut que nous l'assumions.
Pour moi, au départ, quelqu'un qui avait fait une IVG n'avait pas le droit d'être en deuil. Comment est-ce que... Enfin, c'était très contradictoire. Comment est-ce que je pouvais être en deuil d'enfants que j'avais pas voulu?
Cécilia Ranson, donc, je rappelle, vous êtes journaliste et vous avez réalisé ce documentaire. Pourquoi avoir choisi de traiter ce sujet d'abord ?
Il m'a semblé que les séquelles de l'avortement étaient rarement traitées. Alors, je ne dis pas qu'on en a jamais parlé, mais par contre, quand j'en parlais autour de moi, je voyais qu'il y avait une souffrance qui était tue, que les femmes s'auto-censuraient. Et l'esprit libre que je suis a voulu vraiment donner la parole à ces femmes. Il se trouve que les hasards de la vie m'ont fait rencontrer également Sylvie Le Petit, qui est sur le plateau, et qui relate son expérience dans le deuil défendu. Et voilà, je pense que tous les sujets devraient être abordés. La liberté d'expression nous garantit, en tout cas, de pouvoir aborder tous les sujets, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce documentaire.
Qu'est-ce qu'il en ressort ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de votre enquête ? C'est plusieurs mois d'enquête, hein ?
Plusieurs mois d'enquête où j'ai pu interroger un nombre significatif de femmes, des femmes au profil divers, de milieux sociaux différents, croyantes ou non, qui regrettent l'avortement, d'autres qui ne le regrettent pas, qui n'ont pas eu de séquelles. Et c'est aussi important de dire que toutes les femmes ne souffrent pas des conséquences de l'avortement. Pour autant, pour celles qui en souffrent, j'ai vraiment entendu une souffrance émotionnelle intense, une charge émotionnelle dont elles ont du mal à se défaire. Et à un moment donné, cette charge émotionnelle, il faut en parler, puisqu'on le sait, hein, la parole fait beaucoup de bien et elle est importante dans ce processus de reconstruction et de guérison. Et c'est vraiment ce qui m'a marqué, cette souffrance dont on ne s'autorise pas à témoigner, parce qu'on a peur, quelque part, de remettre en cause un droit. Donc, on s'auto-censure.
Sylvie Le Petit, c'est votre expérience. Pourquoi est-ce que aujourd'hui il est important de libérer cette parole sur ce sujet, en particulier de la souffrance liée à l'avortement ? Et pourquoi est-ce un tabou ?
Alors, c'est un tabou, je pense, parce que les femmes qui subissent ou choisissent un avortement, dans mon cas, je pense que je l'ai subi, ce sont des femmes qui ont honte de cet acte. Et donc, la honte fait qu'on ne veut pas en parler. Même si c'est un droit, comme le rappelle Cécilia, même si c'est légal, il y a une loi. Je pense que cette loi était tout de même nécessaire, hein, puisque les femmes se faisaient avorter de toutes les façons, dans des conditions très dangereuses pour elles. La honte et la culpabilité fait qu'on ne veut pas en parler. Voyant ce qui me concerne, j'ai donc subi un avortement à l'âge de 17 ans, qui a été, on va dire, décidé par ma mère. Je n'ai pas eu de voix au chapitre, parce que je ne lui en veux pas. Hein. J'ai fait la paix avec elle avant son décès, et on a pu reparler de ce sujet, qui pour elle était un sujet clos. Hein. Elle avait dit « on n'en parlera plus jamais ». Et donc... Les femmes, j'ai perdu le fil.
Bon, on va y revenir de toute façon sur votre.
Je suis un peu sous le coup de l'émotion. Hein,
bien sûr, mais c'est tout à fait compréhensible. Voilà. On va revenir sur votre témoignage.
Voilà, j'ai osé en parler 40 ans après. Hein. On dit que les Hébreux sont restés 40 ans dans le désert. Eh bien, 40 ans après, quand j'avais donc à l'âge de 57 ans, j'ai eu une. Peut-être, je ne sais pas, c'est l'Esprit Saint qui m'a dit maintenant ose en parler. Et mon livre a quand même choqué parce que, à part mon mari et mon ami d'enfance, personne ne savait que j'avais avorté. Et j'ai senti que je ternissais un peu mon image quelque part. Les gens se disaient, vous en voyez, à la fois c'est contradictoire, c'est un droit, mais si vous osez dire que vous avez avorté, les gens quand même vous jugent.
Alors justement, rappelons, Véronique, si vous le voulez bien, les différentes évolutions de la loi Veil depuis donc 1975 et les constitutions, les projets de loi qui ont suivi ce vote.
Oui, parce que cette loi n'a cessé d'être amendée depuis 40 ans. Alors, elle date de 1975 et à l'époque, elle autorise l'IVG avant la fin de la 10e semaine de grossesse. Il y avait deux consultations médicales, un délai de réflexion d'une semaine, une consultation psychosociale. La volonté de la mère devait être confirmée par écrit. Bref, ce n'était vraiment pas anodin. On mettait vraiment de sacrés garde-fous. Et dans un discours retentissant à l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974, Simone Veil évoquait une loi dissuasive car, disait le texte, la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. Donc cette loi se voulait une loi d'exception. et d'équilibre. Alors, depuis, l'accès à l'avortement s'est considérablement élargi. Je vous donne quelques dates. 1982, donc juste après la victoire de François Mitterrand à l'Élysée, remboursement à 80% de l'IVG par la Sécurité sociale. 1993, création du délit d'entrave à l'IVG. 2001, allongement du délai à 12 semaines et suppression de l'autorité parentale pour les mineurs. Et puis, sous le quinquennat de François Hollande, pas moins de 4 lois facilitant l'accès à l'IVG seront votées, dont le remboursement de l'acte à 100%, la suppression de la notion de détresse, parce que la loi Veil autorisait l'IVG pour, je cite, « une femme enceinte que son état plaçait dans une situation de détresse ». Il y aura aussi la suppression du délai de réflexion de 7 jours et la création d'un délit d'entrave numérique. Et puis en 2002, la fameuse loi renforce le droit à l'avortement avec un texte qui allonge le délai légal de 12 à 14 semaines et qui supprime le délai de réflexion de 48 heures. À l'époque, on en avait beaucoup parlé, hein, de l'allongement de ce délai légal jusqu'à 14 semaines. Alors enfin, aujourd'hui, nous en sommes à la volonté d'inscrire la liberté garantie à l'IVG dans la Constitution. Le texte voté à l'Assemblée nationale doit être examiné au Sénat le 28 février, donc dans quelques jours. Et si les deux chambres adoptent le projet en termes identiques, eh bien Emmanuel Macron pourra réunir le Congrès à Versailles au mois de mars pour entériner cette réforme constitutionnelle.
Merci pour ce rappel, Véronique. Et puis quelques chiffres également. En 2022, il y avait 234 300 exactement interruptions volontaires de grossesse enregistrées en France. Bon, Lucie Pacherie, vous avez suivi au titre donc, de votre travail, vous êtes chargée de plaidoyer auprès des parlementaires, donc les débats dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui vous a frappé dans le langage utilisé? Qu'est-ce qu'ont révélé ces débats et également les échanges, les contacts que vous avez pu avoir avec les parlementaires sur la manière déjà de considérer le phénomène de l'avortement?
Je crois que les débats à l'Assemblée nationale sont très éclairants sur la situation française, l'exception française de l'avortement. Et ce qui devient en réalité le tabou de l'avortement, c'est un sujet qu'on ne peut plus aborder, qu'on n'a plus le droit d'interroger en France, au point que les députés à l'Assemblée nationale étaient extrêmement minoritaires. Je rappelle qu'ils ont voté par 493 voix contre 30 en faveur de l'inscription de l'avortement dans la Constitution et qu'il n'était que 6 contre 90 à débattre dans l'hémicycle et à déposer des amendements pour interroger, pour essayer d'équilibrer ce texte, parce que inscrire l'avortement dans la Constitution, il faut bien comprendre que ça va l'ériger comme une valeur supérieure, y compris supérieure à l'objection de conscience des médecins ou au principe de sauvegarde de dignité de la personne humaine. Et donc, en voyant les débats dans l'hémicycle, on voit bien qu'on n'a plus le droit d'interroger l'avortement. Il y a beaucoup de violence. On ne cite plus du tout l'enfant à naître. Ça n'est pas le sujet. Et donc, dès que les députés veulent en parler, eh bien, ils sont hués, conspués. On a quand même entendu un député dire à ces 6 députés « Foutez-nous la paix !» Foutez-nous la paix, on n'a plus le droit de s'exprimer. Et on voit aussi qu'il y a une réelle idéologie des promoteurs de l'avortement. Et une ministre, d'ailleurs, a rappelé que ça n'était pas un point final, l'inscription de l'avortement à la Constitution, mais qu'il fallait reprendre la marche après. Donc il y a une insatiabilité des promoteurs de l'avortement qui voient tout par le prisme de la femme, comme si la femme pouvait être totalement supérieure à son propre corps, à sa propre nature.
Véronique, juste avant la pause.
Pourquoi parlez-vous d'exception française ?
Alors, une exception française parce que la France a un taux d'avortement qui est supérieur à l'Allemagne, par exemple à l'Italie. Toute proportion gardée, nous avons un taux d'avortement deux fois supérieur à l'Allemagne ou à l'Italie. Des fœtus porteurs de trisomie 21 et diagnostiqués in utero. Une exception française qui a été pointée du doigt par l'ONU, notamment par le comité des droits des personnes handicapées. Donc on a en France une sorte d'encouragement à l'avortement qui fait que l'avortement devient un bien, une valeur, peut-être une valeur républicaine, une valeur constitutionnelle.
Mais est-ce que ce n'est pas contradictoire avec le fait, par exemple, qu'on dise beaucoup de bien des cafés joyeux, par exemple, c'est très concret, qui font travailler des personnes trisomiques, donc dans des cafés, hein, comme leur nom l'indique, et d'un autre côté, effectivement, cette élimination, comme vous le dites, des trisomiques avant même qu'ils naissent?
il y a une grande contradiction, une grande hypocrisie en réalité, parce qu'en effet, on essaye d'être une société inclusive, on parle collectivement du respect de la différence, mais en réalité, on ne souhaite pas collectivement que les enfants qui portent une différence, et notamment les porteurs de trisomie 21, naissent. Donc on voit bien qu'il y a là, en prénatal, il n'y a plus d'interrogation collective sur l'inclusion. Il y a une grande discrimination prénatale des enfants à naître.
On se retrouve juste après une pause publicitaire avec cette question notamment, en quoi est-ce que l'avortement est aussi, on l'a dit, donc c'est une souffrance, mais aussi une blessure de l'âme. Vous restez avec nous.
13h-14h, CNews Europe 1, en quête d'esprit. Émeric Pourbet.
De retour dans Enquête d'esprit, nous parlons de l'avortement. En quoi est-elle une blessure de l'âme et en quoi aussi est-ce que l'Église peut permettre de répondre, notamment en partie peut-être, à cette souffrance? On en parle avec nos invités, Cécilia Ranson, qui est l'auteur d'un documentaire qui a été diffusé sur KTO, qui s'appelle « Le deuil caché », qui traite justement du témoignage de ces femmes qui ont vécu des avortements. Avec nous également Lucie Pachery, qui est juriste et chargée de plaidoyer à la Fondation Jérôme Lejeune. Et puis Sylvie Lepetit, qui a écrit notamment ce livre « Le deuil défendu, regarder en face la blessure de l'avortement ». C'est aux éditions Saint-Léger. Elle va nous parler dans un instant de son témoignage. Bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous. Elle nous dira justement pourquoi est-ce que l'Église défend autant la sacralité, pourrait-on dire, de la vie. Alors, Sylvie Lepetit, justement, aujourd'hui, vous avez 61 ans, vous êtes une mère de famille comblée, vous avez 3 enfants, mais à 17 ans, vous nous l'avez dit, vous êtes tombée enceinte lors de votre premier rapport sexuel, et votre mère, pourtant catholique pratiquante, vous a fait avorter pensant que vous étiez trop jeune. Et puis, 40 ans plus tard, vous écrivez donc ce livre, Le deuil défendu. Pourquoi ? Et ça veut dire aussi que finalement, il y a une forme de déni, même de mensonge à soi-même, lorsqu'on a vécu, en tout cas ça peut arriver, lorsqu'on a vécu un avortement ?
Tout à fait. Moi, je peux dire que j'ai été dans le déni pendant 10 ans, jusqu'à la naissance de ma première fille. Qui est née, donc j'ai avorté à 17 ans et j'ai été maman à 27 ans. Et quand j'ai eu ma première fille dans mes bras, voilà, j'ai été bouleversée déjà, et bouleversée avec un chagrin immense, parce qu'à ce moment-là, en accueillant cet enfant dans mes bras, j'ai pris conscience de ce que j'avais fait. Pendant 10 ans, j'ai été dans le déni. De 17 à 27 ans, j'ai fait mes études, j'ai vécu ma jeunesse. Pour moi, c'était un problème réglé. Et voilà. Et quand j'ai eu cet enfant dans les bras, je me suis dit, mais la vie, c'est une merveille, c'est un cadeau de Dieu. Et j'ai eu étrangement le même chagrin à chaque naissance. J'ai la joie d'avoir 3 grands-enfants qui sont de jeunes adultes aujourd'hui. Je suis également grand-mère d'une adorable petite fille. Et également, j'ai été bouleversée quand je suis allée voir ma petite fille à la maternité. À nouveau, j'ai eu cette remontée de chagrin en me disant, mais voilà, c'est la vie, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est un don de Dieu. Il y a tellement de femmes aujourd'hui qui aimeraient avoir un enfant, qui ne peuvent pas. Et voilà. Et donc, j'ai eu envie d'écrire ce livre, surtout pour les jeunes filles, pour leur dire, attention. Bon, moi, j'étais naïve, j'ai avorté en 1980, je n'avais pas beaucoup d'éducation sexuelle. Mais les jeunes filles aujourd'hui sont très informées. Donc, j'ai envie de leur dire, faites attention à vous, faites attention à votre corps, Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit, nous dit saint Paul. Donc, et j'ai envie de leur dire, attention, l'avortement est une blessure du corps, du psychisme et de l'âme.
Ouais. Alors justement, en quoi est-ce une blessure de l'âme? C'est vous qui employez cette expression, oui. Effectivement.
Alors, je pense que c'est une blessure de l'âme parce qu'au fond de chaque femme, il y a je pense, le désir de donner la vie. Et donc, avorter, c'est contraire à la mission de la femme. Et qu'on soit croyante ou non, qu'on ait une religion ou non, c'est universel. La femme est heureuse de donner la vie. Et donc, quelque part, l'âme est blessée. Parce que cet acte, même si on n'est pas tout à fait conscient, il va à l'encontre de ce qui va rendre heureux, de ce qui va nous rendre heureuses, de ce qui va nous permettre de nous accomplir. Et voilà, donc moi, ce que j'ai eu envie de faire, c'est ça. Il y a une phrase qui m'a beaucoup portée dans l'Évangile selon saint Matthieu. « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Ça veut dire, prends ta vie avec ses blessures et remets-toi en marche, mais pour les autres. Voilà. Maintenant, je voudrais juste être une éveilleuse de conscience.
Merci en tout cas pour votre témoignage, Véronique Jacquier.
Dans votre livre, vous évoquez le rôle de vos parents, ils ont été moteurs pour vous faire avorter. C'est-à-dire, vous dites « j'ai avorté », mais finalement, vous avez complètement subi cet acte. Est-ce que vous leur avez pardonné? Comment ça s'est passé pendant des années pour digérer cela? C'est pas rien.
Alors, ça a été très dur dans la mesure où maman, croyant me respecter, a dit « on n'en parlera plus jamais, ça restera un secret entre nous et donc c'est un sujet clos ». Et moi, de multiples reprises, j'ai eu envie d'en parler avec elle. Et habilement, elle arrivait toujours à déjouer ce sujet jusqu'à la publication de ce livre qui a été très dur pour elle puisque il a été publié peu de temps avant son décès en fait. Elle l'a lu avec beaucoup de courage. À 93 ans, on a pu rouvrir ce dossier, on a pu en reparler. Elle m'a demandé pardon. Elle m'a dit « Sylvie, je ne savais pas que cela t'avait autant blessée et que cela avait autant impacté ta vie. » Il faut savoir que ma mère était autant féministe que catholique pour comprendre sa démarche. Hein, et c'était important pour elle.
Véronique.
Est-ce que vous avez fait un acte de réparation par rapport à cet enfant qui n'est pas venu au monde ?
Oui, alors j'ai attendu d'être pleinement consciente. Oui, en 1984, j'ai vécu une très belle session à Paray-le-Monial, justement avec mes parents. Et là, j'ai senti que c'était le moment pour moi d'aller me confesser. Et j'ai été accueillie avec une immense miséricorde par un prêtre. Vous savez qu'autrefois, le péché, puisque pour l'Église c'est un péché, le péché d'avortement ne pouvait être absous que par un évêque. Hein. Bon, moi j'ai reçu l'absolution d'un prêtre. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le plus compliqué, c'est de se pardonner. L'Église m'a pardonné, mais se pardonner, c'est difficile et c'est long.
Cécilia Ranson, dans votre enquête documentaire, hein, Le deuil caché, vous avez interrogé des croyantes et des non-croyantes qui avaient vécu un avortement. Quelle différence la foi cela fait-il d'avoir la foi pour justement ce chemin de reconstruction, d'après ce que vous avez pu constater ?
Ce que j'ai pu constater, c'est que par exemple pour Charlène, qui n'est pas catholique, elle m'explique que la vie pour elle c'est une valeur universelle et que je pense que ces femmes, à un moment donné, elles sentent qu'à l'intérieur d'elles, il y a eu le début de quelque chose. Et ça n'a rien à voir en fait avec la religion, c'est un rapport à la vie et comment on a conscientisé ce qu'on avait dans le ventre. Marion s'exprime également sur le sujet. Elle a eu cette résurgence traumatique parce qu'en fait, dans ce documentaire, j'ai vraiment voulu axer l'angle sur les séquelles, hein, les séquelles psychologiques qui existent, en fait. On a beau dire... Parce que quand on parle de l'avortement, en général, on évite de parler de ce genre de séquelles. Et je pense que c'est très, très important de le faire parce que ne pas nommer ces blessures, c'est ne pas respecter ces femmes.
Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, hein, disait Camus.
Exactement. Et je pense que pour les respecter et pour entendre la souffrance des femmes, puisqu'on parle beaucoup des femmes en ce moment, enfin depuis toujours, mais qu'il faut les aider, les écouter. Mais dans ces cas-là, entendons toutes les souffrances et pas seulement celles qui nous arrangent.
Lucie Pachery, est-ce que dans lorsque l'on parle de l'avortement aujourd'hui dans la société, les mots déjà sont piégés ? Parce qu'il y a l'exemple aussi de ce grand scientifique, hein, Jérôme Lejeune, qui a été le premier fondateur de la chaire de génétique à Paris, découvreur de la trisomie 21, expert reconnu auprès des instances internationales, et qui, en quelque sorte, a sacrifié sa carrière au moment du débat sur l'avortement, et notamment sur la question des mots.
Oui, tout à fait. En fait, Jérôme Lejeune, en étant découvreur de la trisomie 21 et en voyant cette pensée arriver dans le monde, pensée qui consistait à dire que si l'on découvrait que l'embryon, le fœtus était atteint d'une maladie génétique, eh bien, il vaudrait mieux pour la société qu'il ne naisse pas. Il s'est dit, je ne peux pas les trahir. Moi, je m'en occupe, je les soigne, je cherche un traitement pour essayer d'amoindrir leur retard mental. Je ne peux pas les trahir et je suis leur avocat naturel. Je dois les défendre. Et donc, il a pris la parole dans le débat public. Il a été un des acteurs importants, un des acteurs centraux du débat public sur l'avortement en 1975. Et il éveillait à la raison en tant que médecin et généticien, en tant que scientifique.
C'est-à-dire que ce n'est pas un débat les scientifiques contre les autres. Enfin, je veux dire, ceux qui luttent contre l'avortement ne sont pas des anti-sciences.
Non, ne sont
pas des... Ça, c'est important peut-être de le préciser.
Et ne sont pas non plus que des croyants qui parlent au nom de leur foi. Jérôme Lejeune était croyant, avait la foi, et donc il avait sûrement une sensibilité propre. Les croyants ont sûrement une sensibilité propre à la valeur incomparable de la vie humaine. Mais Jérôme Lejeune, lui, il essayait d'éveiller la raison, et il y a des arguments très rationnels pour comprendre ce qu'est l'avortement. Et l'avortement concerne un être humain que l'on empêche de naître. Et l'être humain, quand est-ce que commence la vie humaine, eh bien, elle commence au moment de la fécondation, au moment où l'être humain, l'embryon humain, a son patrimoine génétique unique. Et il disait, Jérôme Lejeune, ce n'est pas une affaire de conviction, de goût ou d'opinion. La réalité, l'existence d'un être humain est achevée au moment de la fécondation. Aucun scientifique n'en doute. Dès lors, il appartient à l'espèce humaine, il fait partie de notre communauté humaine et nous devons le protéger.
Sur la question des mots, toujours, Sylvie Lepetit, il y a effectivement cet acronyme, hein, IVG, interruption volontaire de grossesse, pour désigner l'avortement. Et dans votre livre, vous remettez en question la notion même du fait que ce soit volontaire. Est-ce que vous pouvez vous en expliquer ?
Oui, bien, déjà dans mon cas, ce n'était pas volontaire, je l'ai subi. Et puis j'ai eu l'occasion, dans mon parcours de vie, de me former pour être écoutante chez Agapa. Et je suis également accompagnatrice spirituelle. Et je recueille beaucoup de récits de femmes qui, un jour ou l'autre, me confient un avortement. Et j'ai eu la tristesse de constater que beaucoup de femmes avortent sous la pression. Je dirais qu'autrefois, c'était souvent, ben, disons, la pression des parents, hein, pour ne pas avoir une adolescente enceinte. Dans certains milieux, ça ne se fait pas. Mais aujourd'hui, et je trouve ça vraiment terrible, c'est souvent sous la pression du conjoint qui n'est pas prêt. Même des femmes qui ont plus de 30 ans, hein, qui sont tout à fait en âge d'accueillir un enfant, eh bien, souvent, malheureusement, le conjoint n'est pas prêt. Alors, je voudrais mettre un bémol à ça parce que je connais aussi des cas d'hommes qui ont été très blessés par l'avortement de leur compagne. Hein, des hommes qui auraient aimé accueillir cet enfant. Donc, il ne faut pas non plus jeter l'opprobre sur tous les hommes. Voilà.
Véronique Jacquet, puis Cécilia Ranson.
Oui, justement, c'est une question pour Cécile Ranson. Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui nous regardent et qui disent « mais... pour moi, l'avortement est un acte anodin. Je connais autour de moi des personnes pour qui ça s'est très bien passé, parce qu'on nous le vend presque maintenant comme un moyen de contraception dans certains milieux. »
Eh bien, je dirais que ce n'est pas parce que c'est légal que ça ne fait pas mal, que ces séquelles, donc, elles existent. Et les femmes qui témoignent dans ce documentaire le prouvent. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait remettre en question leur témoignage. Elles expliquent elles-mêmes avec leurs mots ce qu'elles ont vécu et que c'est un chamboulement intime de l'être, de l'âme psychologique et que ça nécessite ensuite un travail de réparation. Donc... oui, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait...
C'est la réalité, c'est derrière les mots, cette réalité que vous avez décrite.
Et puis j'avais interrogé des psychologues, des psychiatres aussi, qui ne sont pas d'ailleurs connotés religieux, hein, puisque c'est très important pour moi de pouvoir interroger des experts qui n'ont pas d'étiquette et qui me parlent eux-mêmes de ces traumatismes. De ces traumatismes, de résurgence traumatique et d'un deuil qui est nécessaire à faire pour aller vers une guérison intérieure. Voilà, ce que je voudrais dire aussi, c'est que on parle beaucoup de l'impact de la parole. Et on sait que libérer la parole est très important dans un processus de reconstruction. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire également que ces femmes ont besoin de s'exprimer et ce que j'ai pu comprendre à travers ce documentaire, c'est qu'elles ne s'autorisent pas à le faire. Pourquoi ? Parce que la société renvoie aussi cette image que ce n'est rien. Donc comment faire le deuil de quelque chose qui n'est rien ? Et puis dans IVG, il y a le V de volontaire. Donc on ne va pas se plaindre d'un acte qu'on a voulu. Et autre chose aussi, je voudrais dire, c'est important, donc le V de volontaire. Et il y a aussi cette idée qu'on s'est battu pour leurs droits. Il y a eu un combat féministe qui a été mené de haute lutte. Donc on ne se plaint pas d'un droit qui a été obtenu de haute lutte. Voilà.
Alors, je voudrais qu'on s'intéresse justement maintenant à l'accompagnement, hein, vous commencez à en parler, avec ce reportage auprès d'une association catholique, Mère de Miséricorde, qui s'occupe d'accueillir les femmes en difficulté. C'est un reportage d'Éloi Rochebrune et de Noémie Hardy, auprès de Martine et Pierre Dransart à Lille, qui accompagnent notamment par la prière et le jeûne. Regardez.
Sans jugement, sans préjugés, Mère de Miséricorde accueille les personnes en détresse qui souhaitent se confier après un avortement.
On accueille la personne telle qu'elle est, avec toute son histoire, toutes ses problématiques. Et on n'est pas dans une ambiance de conseil, on est dans une ambiance d'écoute pour qu'elle puisse se libérer.
En France, plus de 3000 personnes jeûnent et prient pour accompagner les couples qui font appel à Mère de Miséricorde.
Automatiquement, on met des chaînes de jeûne en route. Les chaînes de jeûne, ce sont des petits groupements de 10 personnes à peu près, grosso modo, et puis qui vont prier pendant 10 jours s'ils sont 10, et l'un des 10 chacun son tour, va jeûner pendant 24 heures. Et on arrive à des choses très très belles par le jeûne et la prière.
Les demandes varient. Récemment, un couple a appris que leur enfant était atteint d'une maladie. Un groupe de jeûneurs s'est aussitôt mis en prière.
Les médecins, bien sûr, voilà, donnent le résultat du diagnostic et il y a une pression, une peur qui monte.
Qui pousse à l'avortement
ou à l'IMG en l'occurrence, mais tout au moins à supprimer cette petite vie. Et donc ces amis nous ont téléphoné et on a mis plusieurs chaînes de jeûne en route. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, la dernière échographie montre que la division palatine a disparu. Sans le jeûne, je crois qu'on serait rien. C'est vraiment le cœur de notre mouvement.
Des retraites sont organisées par l'association pendant 5 jours. Temps de prière, adoration, accompagnement spirituel. Toutes les générations profitent de cette écoute bienveillante.
Et même des personnes âgées qui ont vécu cet avortement il y a très très longtemps et qui ont vécu avec ce fardeau et qui là, avant de quitter finalement le monde, avant de rejoindre le Seigneur aussi, elles ont besoin de déposer ce fardeau.
Pour faire face aux nombreux cas de détresse, 3 retraites spirituelles sont prévues cette année. La prochaine a lieu du 11 au 16 mars à l'abbaye Saint-Vendry en Normandie.
Sylvie Le Petit, une réaction d'après votre expérience aussi d'accompagnement de ces femmes qui sont en difficulté. Là, on a vu effectivement un accompagnement par le jeûne, donc se priver de nourriture et la prière. Ça veut dire aussi qu'il y a un combat spirituel, d'ordre spirituel, qui se joue à l'intérieur même de ces femmes qui hésitent justement à pratiquer un avortement.
Alors moi j'accompagne des femmes qui ont avorté, qui rentrent souvent dans un processus, comme je l'ai vécu, un processus de repentir et de désir de réparation. Et ce processus est très beau puisqu'il nous met en marche, c'est un chemin de conversion qui peut durer des années. J'ai eu la chance moi aussi de faire des sessions spirituelles, entre autres à Béthanie qui est un centre spirituel orthodoxe, où là, on m'a proposé une cérémonie, en fait, en quelque sorte de baptême de mon fœtus. Et donc, il a pu recevoir un prénom. Et à partir de ce moment-là, d'abord, j'ai beaucoup pleuré et j'ai enfin pu commencer à entamer ce deuil. J'ai également fait une session avec la vigne de Rachel, une session de guérison. Donc, je pense qu'effectivement, en tant que catholique, je dirais qu'on a beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de lieux d'accueil. Il y a vraiment des endroits où des bénévoles se consacrent à l'accueil des personnes qui vivent ce deuil très particulier et se repentir de l'avortement.
Alors, je voudrais qu'on s'intéresse à présent à la réaction du Vatican au débat français, parce que c'est plutôt inhabituel, avec cet article tiré d'un média officiel du Vatican qui s'appelle Vatican News, dont le titre est le suivant, « La France vers une constitution contraire à la vie ». C'est daté du 7 février et l'article reprend les mots du pape François qui disait il y a 3 ans en Slovaquie que l'avortement était un meurtre et qui demande des mesures et des politiques en faveur de la vie et non de la mort, comme l'accompagnement, justement, on en parlait, des femmes enceintes en difficulté. Lucie Pachery, est-ce que ces mesures, cet accompagnement, vous semble de nature à faire diminuer le nombre d'avortements en France ?
Il devrait l'être, cet accompagnement, mais il devrait être plus présent et on devrait en parler dans les médias, on devrait en parler en société de l'accompagnement des femmes pour leur permettre d'éviter de recourir à l'avortement. Je crois qu'il faut bien comprendre aujourd'hui qu'avec 50 ans de conditionnement français sur l'avortement, on a rappelé tout à l'heure toutes les propositions de loi depuis 1975 qui n'ont cessé de pleuvoir pour supprimer les conditions d'accès à l'avortement, élargir la possibilité d'avorter, installer le tiers payant, accentuer le délit d'entrave. Bref, en 50 ans, on a cessé d'avoir des mesures qui libéralisaient l'avortement et qui faisaient penser à la femme que c'était bon pour elle, que c'était une bonne chose pour elle. On est donc conditionné depuis 50 ans et on n'est pas capable aujourd'hui, on n'est plus capable collectivement de dire à une femme, tu sais, l'enfant que tu attends, peut-être que c'est pas le moment, peut-être que ça va gêner ta carrière, peut-être qu'il est handicapé et que c'est difficile, mais on est là, collectivement, en société, pour t'aider parce que c'est ton enfant et on va mettre tout en œuvre pour faire en sorte que de t'aider avec ton enfant. Voilà, on n'est plus encouragé. En fait, aujourd'hui, on est encouragé quand on est une femme. On est encouragé à l'avortement et on n'est pas encouragé à la maternité.
Véronique, pourquoi est-ce que l'Église, depuis plusieurs décennies, s'investit autant sur ce sujet-là, les différents pontificats, hein, depuis Paul VI jusqu'au pape François, ont vraiment insisté. Que dit l'Église sur le sujet ?
Alors l'Église a toujours défendu la vie depuis sa conception. C'est écrit dans le catéchisme de l'Église catholique qui s'appuie sur le cinquième commandement « Tu ne tueras pas » dans le fameux décalogue, hein, les paroles de Dieu données à Moïse. Alors une défense de la vie qui est d'autant plus sacrée que la conséquence d'un avortement pour l'Église, a un impact sur les parents de l'enfant à naître et finalement sur toute la société. Le pape Saint Jean-Paul II dénonçait en 1995 dans son encyclique Evangelium Vitae une structure de péché entretenue par une vision utilitariste de la vie où, je cite, « toute personne, que ce soit l'embryon ou la personne malade ou en fin de vie, dont l'existence nécessiterait un surcroît d'accueil et d'amour, est perçue comme un poids insupportable ». Jean-Paul II évoquait une culture de mort. Alors avant lui, Paul VI rappelait en 1968, hein, donc on était en pleine tourmente de libération sexuelle, donc son encyclique était vraiment prophétique. Dans son encyclique donc « Humanae Vitae », la condamnation de l'avortement voulu est procurée même pour des raisons thérapeutiques. L'Église cependant veut aussi témoigner de l'accueil offert aux femmes blessées par une IVG. Le pape François a récemment assoupli les conditions d'absolution du péché d'avortement aux confessions. Vous l'avez évoqué, Sylvie. Désormais, les prêtres et plus seulement les évêques peuvent accorder le pardon de Dieu.
Merci Véronique. Sylvie Lepetit, une réaction. Finalement, c'est un héritage donc judéo-chrétien, hein, puisque ça vient effectivement des 10 commandements donnés à Moïse. Et finalement, cette question, c'est aussi un enjeu de civilisation, de vie et de mort, de la manière dont on considère ces deux notions dans la société.
Oui, alors effectivement, c'est une question de vie. Hein. Dans la Bible, il est écrit « Je place devant toi la vie et, ou la mort, choisis la vie ». Voilà. Donc,
c'est pas seulement une question individuelle. Je veux dire,
c'est pas seulement une question individuelle. Moi, ce dont je peux témoigner, c'est que ça peut aussi impacter une famille. Hein. Moi, mes enfants ont été, je leur en ai parlé, hein, puisque j'avais entamé une psychothérapie et mon psychologue m'avait conseillé d'en parler à mes enfants parce que c'est important que les enfants connaissent leur place dans la fratrie. Donc je leur en ai parlé et je peux dire que ça les a impactés. Hein. Ce n'est pas anodin en fait d'avoir une maman qui en fait, a commencé sa vie affective et sexuelle par un avortement. C'est aussi une blessure en fait, pour toute la famille. Aussi étrange que
et donc
ça.
Pour toute la société finalement.
Et pour toute la société.
Lucie Pacheri.
Ouais, je voudrais simplement réagir parce qu'en effet, je trouve que c'est important de se rappeler que le principe « tu ne tueras pas » n'est pas réservé aux croyants. En réalité, c'est un principe qui relève de la loi naturelle qui est inscrite dans tout homme, croyant ou incroyant, et qui est le socle de toute société. Toute société humaine. On sait très bien que pour vivre ensemble, pour vivre en communauté, et c'est le propre de l'homme, eh bien, on ne peut pas se tuer les uns les autres. Sinon, on vit en perpétuelle crainte de l'autre, et ce sont les plus forts qui écrasent les plus faibles. Et donc, cette notion de « tu ne tueras pas », on doit prendre soin les uns des autres, et les plus forts doivent prendre en charge les plus faibles, que nous serons tous un jour, eh bien, relève de toutes les sociétés, et ce principe vaut aussi pour la mère et l'enfant, évidemment. Donc c'est important, je trouve, de rappeler que certains l'ont appelé le contrat social. Voilà, c'est important de rappeler que c'est le principe même de la société pour que les individus, pour que les sujets de droit puissent vivre sereinement et en paix ensemble.
Oui. Mais Cécilia Ranson, est-ce qu'il n'y a pas, je vous donne la parole, Sylvie Lepetit, juste après, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction parce que on a vu avec la mort de Robert Badinter, effectivement, on a exalté son combat contre la peine de mort, et d'un autre côté, avec ce projet d'inscrire dans la Constitution donc la liberté ou le droit à l'avortement, est-ce que là, on n'est pas quand même dans une certaine contradiction dans notre société ?
Alors, peut-être, la contradiction dont je peux vous parler, c'est ce que m'ont témoigné, en tout cas, les femmes qui ont vécu l'avortement, c'est-à-dire qu'elles ressentent un sentiment très, très ambivalent et très contradictoire, à savoir que cet acte, elles l'ont posé, elles l'assument et pour autant, ça ne les empêche pas d'en souffrir. Donc voilà, il faut prendre en compte aussi toute la palette émotionnelle qui est plurielle. Et dans ce documentaire, on explique bien que...
Le deuil caché, hein,
dans le deuil caché, voilà, on peut souffrir profondément, intensément, de quelque chose qu'on a voulu, sans pour autant remettre en cause un droit. Voilà.
Sylvie Lepetit, comment est-ce que les croyants aujourd'hui peuvent se réapproprier cette valeur de la vie et peut-être se faire entendre davantage dans la société tout entière ?
Ah, ça c'est compliqué, mais je crois que oui, il faut revenir à... effectivement, enfin, la vérité vous rendra libre, et la vérité c'est que la vie est sacrée. Et, il n'y a rien d'autre à ajouter, en fait. Il faut revenir là. Et j'aime beaucoup ce qu'a dit Lucie sur la nécessité de protéger ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Justement, l'enfant à naître, il n'a pas d'autre voix. Il n'a pas de voix. Moi, je suis toujours choquée par le combat, finalement, mené par des femmes qui, bon, parfois, se battent pour ce droit à l'avortement, mais elles sont vivantes. Je suis vivante. Ma mère a mené sa grossesse à terme. J'étais son troisième enfant et mon père était fragile psychiquement. Il était dépressif. Qu'est-ce que je sais de ma mère a été courageuse, finalement, et moi, je suis heureuse d'être vivante. Donc, oui, c'est important de prendre conscience de cette vulnérabilité que nous devons protéger, parce qu'après...
Collectivement, donc.
Collectivement.
Voilà. Véronique Jacquier.
Lucie Pacherie, avec la constitutionnalisation de l'IVG, est-ce qu'on n'a pas quand même à faire un combat qui est perdu d'avance ?
Oui, on peut dire qu'on est face à un combat qui est perdu d'avance. Certains pourraient dire aussi que c'est totalement désespérant, puisque ça fait 50 ans qu'on alimente ce que certains appellent le droit à l'avortement. Je rappelle que ça n'est pas un droit, hein, que c'est bien une exception, comme vous l'avez dit, à un article premier qui est la protection de l'être humain dès le commencement de sa vie. Mais il me semble que, quel que soit... La finalité de ce débat, nous avons un devoir d'annoncer courageusement et de dire courageusement, de rappeler courageusement la réalité objective de l'avortement et le réel besoin des femmes. Je pense aussi qu'on a un devoir d'insuffler le courage à nos politiques, parce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui que l'avortement, c'est un piège politique. Les politiques sont complètement pétrifiés, complètement paralysés dès qu'on en parle, parce qu'ils savent bien qu'ils peuvent être discrédités en une seconde s'ils s'opposent à l'avortement ou s'ils interrogent l'avortement. Et donc, ce courage politique, je pense qu'avec la figure de Jérôme Lejeune, on peut le retrouver. Jérôme Lejeune a eu réellement ce courage. Il savait qu'il allait tout perdre quand il a pris la parole contre l'avortement, contre la légalisation de l'avortement. Je pense notamment à un discours qu'il a fait en 1969 lorsqu'il a reçu le premier prix, le prix le plus important au monde de génétique, qui s'appelle le William Allen Memorial. Eh bien, il a pris la parole devant un parterre de généticiens, de scientifiques, de médecins, de politiques, et il a dit: la médecine doit-elle servir la santé ou doit-elle servir la mort ? Si nous appliquons des pratiques eugénistes au point de sélectionner ceux qui ont le droit de vivre ou pas, eh bien, nous servirons, vous serez, puisqu'il s'adressait à l'Institut National de la Santé, vous ne serez plus l'Institut National de la Santé, mais l'Institut National de la Mort. Et je ne m'y résoudrai pas. Voilà. Donc, Jérôme Lejeune a eu ce courage, et c'est une figure inspirante aujourd'hui, et nous ne pouvons qu'appeler les sénateurs à avoir ce courage politique de dire les choses, de ne pas rester coincé dans ce tabou et dans ce piège politique, et de dire que inscrire la Constitution dans l'avortement dans la Constitution, c'est une aberration. Ils sont en capacité de le faire, l'opposition est en capacité de le faire, il faut simplement qu'ils retrouvent ce courage. Voilà. Donc c'est d'une certaine façon perdu d'avance au regard médiatique, d'un point de vue médiatique, mais il y a quand même, c'est possible qu'il se passe quelque chose au Sénat, en tout cas il faut inviter les sénateurs à cela.
C'est la fin de cette émission. Merci à toutes d'avoir éclairé cette question délicate, difficile. Cécilia Ranson, je renvoie donc à votre documentaire Le Deuil Caché. On peut le retrouver sur YouTube. Et puis vous préparez un autre tournage sur les dangers de l'occultisme.
Voilà.
Vous pourrez venir nous en parler. Sylvie Lepetit, je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Deuil Défendu, regardez en face la blessure de l'avortement. C'est aux éditions Saint-Léger. Merci à Lucie Pacherie. Malheureusement, le temps s'achève. Véronique, que faut-il lire cette semaine dans France Catholique?
Un sujet sur la bataille de la vie, justement, avec la constitutionnalisation de l'IVG. Et puis, c'est à retrouver sur abonnement ou sur france-catholique.fr.
Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci Aurélie Lucano et aux équipes techniques de CNews. La semaine prochaine, nous parlerons des mystères de la messe. Très bonne journée à tous. Vous restez à notre écoute.